La revue de presse, Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. C'est l'autre fait divers qui a rouvert les plaies américaines. Voilà comment François Houlac débute son article sur Slate. Alors que le 25 mai dernier à Minneapolis, George Floyd mourait sous le genou du policier Derek Chauvin à l'autre bout du pays, le même jour, se jouait un drame racial d'une nature différente. C'était dans les allées de Central Park à New York, une discussion entre un homme noir de 57 ans et une femme blanche de 41 ans. Il s'appelle Christian Cooper et elle, Amy Cooper, même patronyme, mais aucun lien familial. Ce matin-là, Christian Cooper se promène sous les arbres pour observer les oiseaux. Dans cette partie boisée du parc, les animaux de compagnie doivent obligatoirement être tenus en laisse. Or, le chien d'Amy Cooper gambade sans laisse. Christian Cooper le lui signale, mais Amy Cooper refuse de l'écouter. Le ton monte et il sort alors son téléphone pour filmer leur échange. Elle lui ordonne d'arrêter. Et puis, alors qu'il lui répète d'attacher son chien, la femme formule cet avertissement.
Please call the cops.
I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life.
Please tell them whatever you like.
La phrase d'Amy Cooper est la suivante. J'appelle la police, je vais leur dire qu'un homme africain-américain menace ma vie. Après quoi, elle met sa menace à exécution, elle appelle la police et simule la panique comme si effectivement Christian Cooper était en train de l'agresser.
I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately. I'm in Central Park in the Ramble. I don't know.
Thank you.
Christian Cooper la remercie car il tient là une preuve irréfutable d'un mensonge raciste et honté. Dans la foulée, sa sœur poste la vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui provoque bien sûr des réactions ulcérées. Amy Cooper est conspuée par les internautes, puis virée par son employeur. Les observateurs ne manquent pas de relever la façon dont elle appuie sur l'expression « homme africain-américain », comme si elle savait ce qu'il se passerait pour Christian Cooper en cas d'intervention de la police. Une histoire tristement banale, commente mon confrère de Slate, qui précise que les femmes blanches, autrices de bad buzz racistes, sont ces derniers temps devenues la risée du pays. Leur point commun, reprocher à des personnes noires d'exister. Une certaine Jennifer a appelé la police parce que deux hommes noirs faisaient un barbecue dans un parc. Une certaine Teresa a accusé un enfant noir de 9 ans d'attouchement sexuel. Une certaine Allison a pour sa part dénoncé une fillette noire qui vendait de l'eau devant sa maison et la première d'entre elles s'appelait Caroline Bryant. C'était en 1955 dans le Mississippi. Elle avait accusé un adolescent de 15 ans de l'avoir sifflé, touché et de lui avoir tenu des propos déplacés. Le garçon s'appelait Emmett Till. Après cette dénonciation, il avait été kidnappé, torturé, puis tué d'une balle dans la tête par le mari de son accusatrice et son beau-frère. Jugés, les deux hommes ont été acquittés et ce n'est que 62 ans plus tard que Caroline Bryant reconnaîtra avoir menti.
Ce week-end, Le Monde nous plonge également dans l'histoire.
Avec la reproduction d'un article de 1937, une pleine page publiée alors dans Paris Soir. Et c'était une enquête du correspondant du journal aux États-Unis. Le titre était le suivant. En 55 ans, 4674 nègres ont été brûlés. Nègre était le mot qu'on employait. Et le journaliste décrivait en détail les atrocités commises. Meurtre par balle, flagellation, amputation, pendaison. Des atrocités recensées par un dentiste noir rencontré dans l'Alabama. Ces choses ne sont pas de la littérature, lui avait-il dit. Ces choses sont la réalité. Vous avez ici la preuve de l'incroyable sauvagerie des soi-disant civilisés. Quand je sors le matin, je ne sais jamais si je reviendrai le soir. Aujourd'hui encore, c'est ce que se disent de nombreux Américains.
Et le sujet, Frédéric, continue de nourrir les journaux ce matin.
Parce qu'environ 25 000 personnes ont donc défilé hier à travers l'Hexagone, toujours du monde, contre les violences policières, commente l'écho républicain dans la rue, contre le racisme et les violences, résume Ouest-France, des manifs pour que ça change, précise la Provence dans une tribune publiée dans Le Monde. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, préconise de relancer de manière apaisée et constructive, dit-elle, le débat sur les statistiques ethniques. Son collègue Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement, estime que la meilleure piste, ce sont les statistiques en fonction du lieu d'habitation. Il le dit dans Le Parisien, c'est moins stigmatisant. Et puis il appelle par ailleurs à enlever le mot « race » de la Constitution, ce serait un signe symboliquement très fort. Alors comment le président de la République parlera-t-il de ce sujet-là ce soir? Son visage s'affiche à la une du Parisien comme du journal du dimanche. « Macron à la relance » annonce le premier, tandis que le second titre « Macron, le nouvel agenda » est de l'avis des deux journaux. Le président de la République ne se contentera pas de confirmer la fin du déconfinement dans le pays le 22 juin, mais il devrait également exposer les grandes lignes des deux dernières années de son quinquennat. Unité de la nation, crise économique, peut-on éviter une explosion du chômage des jeunes, interroge le Parisien ce matin. Des éléments de réponse dans l'édition du Monde, la jeunesse victime de la crise économique. Une jeunesse que le quotidien appelle la génération Covid, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail alors que l'épidémie a provoqué une grave récession, une envolée du chômage, faisant voler leurs projets en éclats.
D'autres conséquences de cette pandémie sont à lire dans la presse.
Conséquences psychologiques pour les parents contraints de télétravailler tout en s'occupant de la scolarité de leurs enfants. Bon nombre aujourd'hui sont au bord du burn-out. Peut-on lire dans Le Monde? Conséquences sentimentales. Dans La Dépêche, on nous explique qu'à Toulouse, le nombre de divorces est en très forte augmentation depuis le début du déconfinement. Ici et là, plus réjouissant, on nous raconte la réouverture des parcs d'attractions. Et puis, les librairies qui désormais ne désemplissent pas, ça c'est à lire dans La République du Centre, enfin culture, toujours dans Le Parisien. Il est question de cinéma. Une nouvelle plongée dans l'histoire. 29 février 1940, la cérémonie des Oscars, qui pour la première fois offre une récompense à une actrice de couleur, Hattie McDaniel, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, le rôle de la nounou de Scarlett O'Hara. C'est l'un des moments les plus heureux de ma vie. J'espère sincèrement que je serai toujours digne et ferai honneur à ma race et à l'industrie du cinéma. Mon cœur est trop plein pour vous dire ce que je ressens, sinon que je vous remercie. Durant sa carrière, Hattie McDaniel a joué 95 rôles, dont 74 fois le rôle d'une domestique.
La revue de presse, c'était Frédéric Pommier. Merci Frédéric.